RFI, grand reportage, Charlotte Hudrag.
Bonjour, grand reportage nous emmène aujourd'hui dans les Alpes françaises, à Briançon. Depuis le début de l'année, cette petite ville de 12 000 habitants a vu arriver plus de 1 600 migrants. Ce sont majoritairement des mineurs originaires d'Afrique de l'Ouest qui souhaitent trouver refuge en France. Ils arrivent d'Italie, ont traversé la montagne à pied pour franchir la frontière. Après souvent des jours de marche et de cache-cache avec la police, ces exilés trouvent enfin un peu de repos à Briançon. Là-bas, pas de camp humanitaire ni de centre d'hébergement géré par l'État, l'accueil repose sur les épaules des habitants de la vallée, du linge à l'hébergement, en passant par la nourriture ou même le transport. Avec les moyens du bord, beaucoup de volonté et une armée de bénévoles, ces citoyens engagés veillent tous les jours à ce qu'aucun migrant n'ait à dormir dehors. À Briançon, la montagne solidaire des migrants, grand reportage signé Alice Posicki.
Dans le paisible village de Névache, au cœur de la vallée de la Clarée, deux voitures se garent tout près d'un chalet en bois. Sans perdre une minute, l'un des chauffeurs déboule tel une tornade dans le salon du gîte où patientent quatre migrants. Après avoir pris soin d'enlever la neige collée sous la semelle de ses grosses chaussures, il organise le convoi du soir.
Allez, we go.
D'accord.
Moi, je monte tout.
Sur la banquette arrière, trois exilés se serrent comme des sardines. La situation ne semble pas vraiment perturber Nasser, un Camerounais aux cheveux courts, décolorés.
Vous vous sentez comment? Ça va?
Ouais. Je me sens un peu cool, quoi.
Froid?
Ouais, un peu froid. Ouais.
Et pas trop stressé, parce que c'est un peu risqué, là?
Non, je ne suis pas stressé. Ce qui est sûr, Dieu est là. C'est Dieu qui m'a guidé jusqu'ici, de la Libye jusqu'ici. Je sais que tout ce qu'il fait est bon. Et je sais que nous allons entrer, nous allons arriver. Par sa volonté, par sa grâce.
Le chauffeur du petit groupe porte une lampe frontale qu'il garde éteinte. Il préfère rester discret sur son identité.
Vous êtes confiant, là, quand même, ou il y a un peu de...
Ah ben non, je suis confiant, mais si tu veux, trop de confiance, c'est pas bon non plus. Hein, donc, il faut être à la fois organisé, comme on a fait là, et puis à la fois pouvoir traduire un peu des imprévus, quoi.
Ce soir-là, l'objectif est de quitter Névache, le petit village où arrivent les migrants, après avoir franchi à pied le col de l'Échelle depuis l'Italie. Il faut ensuite rejoindre Briançon, la grande ville la plus proche, à 15 km de là. Le tout en évitant de se faire arrêter par la police ou la gendarmerie.
Donc là, tu vois, d'habitude, là, ils sont là, là. Voilà.
Ils, c'est...
Les flics. Parce qu'en fait, à gauche, t'as la descente du col de l'Échelle. Et c'est là où ils les cueillent. Et comme en plus, les voitures, ils les voient arriver de loin. Tu écoutes, Nasser?
Ouais.
En fait, si on se fait arrêter par les gendarmes, il faut que tu dises qu'on vous a trouvé sur la route à marcher.
Ouais,
ouais. Hein, surtout, hein.
D'accord.
On vous a pas accueilli, on vous a pas de... Vous dites que vous faisiez du stop, comme on dit en France.
Ce convoi évite aux migrants plusieurs heures de marche. Il n'en reste pas moins illégal. La loi française interdit l'aide à la circulation de personnes en situation irrégulière. Mais qu'importe les textes et les risques qu'il encourt. Pour notre chauffeur, c'est avant tout le bon sens qui prime.
C'est la première fois que vous faites ça?
Non. Quand on pense à nos parents, grands-parents... Là, même si on est arrêté, même si on n'est pas sous Vichy, on n'est pas... si tu veux, quand on voit ce qu'on fait Léo Braque, le docteur Ducoujon à Caluire, enfin des tas de trucs, on est des petits joueurs, mais indépendamment de ça, on va pas non plus refaire le monde. Hein.
Le concept de désobéissance civile, du coup, ça vous parle?
Ah ben moi, j'ai pas attendu Mélenchon pour être insoumis. Hein. Moi, je suis un travailleur indépendant jusqu'au bout des ongles. Et... La désobéissance civile, oui, c'est une culture à développer d'ailleurs. Pareil, il ne faut pas que j'aille trop vite, parce que s'ils m'arrêtent pour excès de vitesse, là souvent ils sont là. Et là on a une combine aussi, là. On a une combine pour prendre une piste. Et là c'est un endroit où s'il y a un barrage, on est cuit.
Après une demi-heure de voiture, les routes de campagne s'éloignent. Le convoi arrive à destination.
C'est bon, on est arrivé à Briançon, là, c'est bien. Donc on vous emmène dans une maison, vous allez pouvoir dormir tranquille. Vous allez rester quelques jours et on va vous... Il y a des gens qui vont s'occuper de vous enregistrer, de faire des papiers, enfin voilà. Mais là, c'est bien, là on a gagné, là, c'est bien. Voilà.
Et toi, t'as dit Dieu merci.
Cet endroit, c'est le lieu d'accueil d'urgence de Briançon. Les gens du coin l'appellent la CRS.
Alors pourquoi CRS ? Parce que nous sommes ici dans l'ancienne caserne des CRS et on a trouvé que c'était un petit clin d'œil de nommer notre accueil d'urgence collectif refuge solidaire.
Joël Pruvot est un habitant de Briançon. Il est bénévole ici et propose de nous faire visiter le bâtiment.
Donc à l'étage ? C'est le tapis de prière.
Premier arrêt, à l'étage. Derrière la porte en bois se cache la buanderie.
Ça, c'est le linge sale.
Les murs sont abîmés. Le sol est jonché de gros sacs poubelles remplis de draps.
Alors, il y a une équipe spécialisée dans le linge qui vient tous les jours.
Sous leurs blouses récupérées à l'hôpital, Sylvette et Yasmina sont de corvée de linge.
Cinq à défaire les lits, refaire les lits, voilà. Faire les lessives.
Et puis les
couvertures. Non, les lessives, c'est tout le monde en fait, ouais. Qui passe les prendre. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est que les couvertures, comme on veille à ce qu'il n'y ait pas la contamination de la gale, donc les couvertures, on les met en sac, on les ferme pendant 4 jours. Et du coup, le parasite, il meurt.
Mais vous avez appris ça où ?
Il y a des infirmières qui se sont renseignées auprès des médecins, tout ça. Et puis, si vous allez sur Internet, c'est tout marqué aussi. Hein. Là, je suis allée vérifier hier.
On a eu quand même aussi des mini-conférences des médecins,
voilà,
qui nous ont expliqué, ouais, justement quel était le processus de la gale et comment il fallait s'en protéger.
Disons que comme on ne sait jamais, en prévention, on fait systématiquement pour tout le monde lavage à 60 degrés. Tout ce qui est drap, parce qu'il faut une haute température pour que le parasite y meure, et des contaminations pendant 4 jours pour les couvertures. Et comme ça, on fait un minimum, ce qui permet que la gale ne se propage pas.
Donc là, maintenant, nous arrivons dans les dortoirs, on va dire. Bonjour, excusez-nous, on peut voir ?
Sur le sol, il n'y a presque plus 1 cm carré de libre.
Alors cette salle, au départ, d'après la convention, était prévu pour une salle de restauration. Il y a un évier, il y avait tout installé pour faire une salle de restauration. Mais devant l'affluence, on a été obligé de la transformer en dortoir. Donc comme vous pouvez le voir, on a quelques lits, mais on a surtout des matelas qui sont posés à même le sol.
Et il y a combien de matelas là ?
Il faudrait compter.
5, 10, 15, 18 matelas au sol. Et des couvertures dans tous les sens.
Autant dire, messieurs, que l'intimité, c'est compliqué, non ? C'est
difficile. L'intimité, ça n'existe pas ici.
Debout en caleçon, Russell Bibout, un Camerounais de 26 ans, fait sa toilette.
À plus de 2, 3, 4, 5, 6, il n'y a plus d'intimité.
Ça fait combien de temps que vous êtes là ?
3 jours déjà. Il n'y a plus d'intimité ici parce que nous sommes tellement nombreux au point où on est obligé de se serrer, quoi. On fait juste l'effort de se supporter entre nous, c'est tout.
Depuis le début de l'année, entre 10 et 20 personnes arrivent chaque jour à la CRS. C'est bien plus que ce que ne peut accueillir la maison.
Théoriquement, la convention qui nous lie à la communauté de communes propriétaires des locaux tape sur un accueil de 15 personnes. Concrètement, on est régulièrement à 50-60 personnes.
Si c'est fait pour 15 places et qu'il y a 70 personnes... Aucune norme n'est respectée.
Aucune. C'est pour ça que nous tirons la sonnette d'alarme et c'est pour ça que nous avons demandé donc de rencontrer les élus pour leur expliquer quel était le problème, quelle était la situation réelle, une situation qui ne peut pas perdurer. C'est impossible de continuer dans cette situation-là. On n'a aucune subvention de personne pour faire fonctionner ce lieu. Donc on ne compte que sur la générosité des habitants. Nous, ce qu'on voudrait, c'est refiler le bébé à une ONG dont c'est le métier, qui a les moyens, qui a le personnel, qui a l'expérience. Parce que nous, comme vous avez vu, on bricole avec des bénévoles locaux, mais on essaye de se faire des petites formations. Il y a donc des médecins qui sont venus nous parler de la gale, par exemple, etc. Mais on n'a pas du tout les compétences pour faire ça à long terme.
Dans la chambre, assis sur un lit, un couple d'Ivoiriens se penche sur ce qui semble être un dossier médical. C'est en fait une échographie, la toute première en 6 mois de grossesse.
C'est ce matin que nous l'avons fait. Ici, on a vu le sexe aujourd'hui.
Alors ?
Un garçon.
Un garçon ?
Ouais, un vrai garçon comme son père.
Les deux amoureux souhaitent rester anonymes. Ils ont fui la Côte d'Ivoire pour éviter à madame un mariage forcé. Ils sont passés par la Libye, ont traversé la Méditerranée, puis franchi la montagne entre l'Italie et la France au col de l'Échelle, avant de trouver refuge, enfin, à Briançon.
Aujourd'hui, toute cette peine est effacée, quoi, en voyant ces images. Quand j'ai entendu de la bouche de la femme que le bébé se porte bien, il fallait me retenir, quoi. C'est grand. Il n'y a pas de mots. Je pense que les Français doivent inventer ce mot-là. C'est plus qu'une joie. Savoir qu'il y a quelqu'un qui vit à l'intérieur d'une autre personne et puis qu'il y a des gens de bonne volonté qui veulent vraiment sauver sa vie, c'est quelque chose de grand. Ce qu'il peut faire, c'est de donner la fond d'apporter un nom de quelqu'un ici, quand même.
La CRS manque de place. Alors le couple a été hébergé chez un habitant. À Briançon, il y a bien un autre lieu d'accueil d'urgence, une petite maison de 7 places, située plus haut dans la ville. Mais elle est pleine, elle aussi. Gérard Fromme, le maire de la commune, le reconnaît. S'il n'y a personne dehors, c'est bien grâce aux habitants.
Ce qu'il faut quand même souligner, et qui est quand même remarquable à Briançon, c'est la qualité de l'engagement des Briançonnais. Au niveau du bénévolat, c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que il y a des gens qui viennent faire la cuisine pour 80 personnes, et ça matin et soir. Donc il y a une dynamique qui s'est mise en place. Moi, je l'ai dit une fois, je suis très fier d'être le maire d'une commune où autant de générosité s'est exprimée, autant de solidarité s'est exprimée.
Mais est-ce que c'est aux citoyens que revient normalement la charge ? Est-ce que, concrètement, la municipalité, est-ce qu'elle ne peut pas faire plus ?
Après, on peut toujours faire plus, hein. On peut, mais je pense que là aussi, il faut savoir limiter les choses. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la commune de Briançon fait un certain nombre de choses. Elle les fait bien.
Quand on va à la CRS, les matelas au sol, 2 douches pour 70, c'est pas des conditions sanitaires qui sont dignes.
C'est pas, non, c'est sûr, on pourrait peut-être mieux faire, mais bon, déjà, il y a ça pour l'instant. Mais ça ne me satisfait pas, si vous voulez, mais là, maintenant, j'aurais besoin de l'État pour aller plus loin.
Bonjour, Philippe Cour, le préfet des Hautes-Alpes. Ce qui serait pleinement satisfaisant, c'est que lorsqu'une personne étrangère arrive dans le Briançonnais, quelle que soit la manière dans laquelle elle vient de Briançonnais, qu'elle ait finalement réussi à franchir la frontière, puisque le contrôle n'est pas absolu, c'est qu'elle se manifeste, qu'elle se signale à nous, ou que la personne qui la voit le signale à nous en faisant le 112 ou le 17, en appelant les forces de l'ordre, et nous prenons en charge la personne, nous le faisons, nous la prenons en charge, nous assurons que les conditions d'hébergement immédiat, de mise à l'abri, puisque c'est le terme qui convient, soient assurées. Et bien évidemment, si c'est un ressortissant étranger, nous regardons aussi dans le même temps et rapidement sa situation administrative. Voilà la réponse aujourd'hui qui est une réponse satisfaisante et voilà celle qu'il faut que nous mettions en œuvre.
En pantoufles et en pantalon de survêtement, Maury Camara s'affaire au fourneau. Pour son déjeuner, il prépare des œufs avec des tomates. Le tout saupoudré de magie, comme il dit. Un cube de bouillon émietté.
Vous aimez bien la cuisine ?
Oui, j'aime ça.
Et qui vous a appris à cuisiner ?
Et souvent, j'ai regardé ma grand-mère. En préparant, je la regardais. Du fait qu'elle prépare, elle me donne. Et toujours ici chez elle. On fait les choses ensemble. Même quand je prépare, ça me rappelle de ma grand-mère, souvent, quand je prépare comme ça.
Le souvenir de sa grand-mère, Makoya, est douloureux pour Maury. Le garçon aux yeux en amande semble solide, mais les apparences sont trompeuses. Maury vient tout juste de fêter ses 15 ans. Il est orphelin et a quitté son pays, la Côte d'Ivoire.
Ma grand-mère, elle n'avait rien. Parce qu'elle est vieille, elle n'avait rien. Même pour marcher, c'est un problème pour elle. Donc si je reste à côté d'elle, elle ne peut pas me diriger, elle ne peut pas m'aider aussi de me scolariser. Si je reste comme ça, je vais devenir un vagabond et aussi je vais faire du mal ou bien je vais devenir un brigand. Donc pour elle, elle veut d'avoir une vie en sécurité. Donc c'est ça qui a fait qu'elle m'a expliqué de partir avec ma grande sœur à Abidjan. Et c'était ma première fois d'arriver à Abidjan.
À cause d'une mauvaise entente avec son beau-frère. À cause aussi d'un oncle qui profite de tous les biens de sa famille. Maury s'est retrouvé sans nul par où aller. La suite, ce sont plusieurs mois d'errance. La Libye, l'Italie, puis la France, à Briançon, où il est hébergé chez un couple.
Depuis que je suis arrivé en France, je vois des familles qui nous prennent ces gens comme les petits-fils. Et nous, on a des parents au pays, nos parents sont décédés, ils ont tout laissé pour nos biens. C'est très dur.
Et vous aimeriez repartir en Côte d'Ivoire un jour?
Non, je vais rester ici. Souvent, j'ai peur de me retourner, parce que si je me retourne, c'est pas bon, parce que là-bas, je n'ai rien là-bas. Ma mère est morte, mon père ne vit plus. Ma mère m'a dit que mon père était un grand mécanicien, donc tout son garage et tous ses biens ont été pris par mon oncle. Mais si je deviens un grand mécanicien ici demain, c'est ça qui est mon rêve, parce que c'est dans ça mon père, il a eu toute sa vie dedans, donc je veux être mécanicien ici.
Les hôtes de Maurice s'appellent Michel Rousseau et Marianne Miclot. En ce moment, Michel et Marianne accueillent aussi Moussa, un Guinéen de 16 ans. Les deux adolescents ne sont pas les premiers à avoir trouvé refuge dans cet appartement qui offre une vue splendide sur la montagne. Mais de là à ce que Michel sache combien de personnes sont passées par ici...
Non, je ne saurais pas dire. Ça... Bon, il est passé du monde, hein, c'est sûr. Je ne sais pas, peut-être une vingtaine de personnes, je ne sais pas. Pour mon épouse et moi, c'est normal, on a de la place, donc c'est normal d'accueillir, c'est sûr. La question de l'hospitalité est une question fondamentale. Je suis assez vieux pour avoir connu la fin de la guerre d'Algérie, hein, avec des centaines de milliers de personnes qui sont arrivées en France. Il a fallu accueillir, donc il a fallu faire un peu de place. Et nous, par exemple, dans ma famille, on a accueilli des gens sans se poser la question de savoir d'où ils venaient, qui ils fuyaient, voilà. Simplement, il fallait bien qu'ils trouvent un toit, ces gens-là. Donc c'était normal d'ouvrir sa porte. Et cette région, le Briançonnais, de tout temps, elle a été traversée par des moments soit d'exil, soit d'asile.
Michel n'a jamais caché qu'il hébergeait des migrants chez lui. Il ne voit aucune raison qui le pousserait à le faire. Pourtant, au regard de la loi, lui aussi risque des poursuites.
On est droit dans nos bottes, au sens qu'on considère qu'on est dans la légalité, et a fortiori dans la légitimité. C'est l'État aujourd'hui qui est hors la loi. Ceux qui nous condamnent se salissent, et l'histoire jugera. Nous, on respecte les droits fondamentaux. L'hospitalité, c'est un droit fondamental. Ces gens qui fuient, est-ce qu'on se pose la question de pourquoi ils fuient? Ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas pris tous les risques qu'ils ont pris comme ça pour venir faire du tourisme en France. Hein. Ce sont des rescapés. Et donc... Ils ont droit au respect et à la dignité. C'est nous qui sommes dans la vraie légalité, hein, celle des droits de l'homme.
L'accueil des migrants est devenu le quotidien de Michel et de Marianne. Des heures passées à nourrir, soigner, réconforter, accompagner. De l'argent aussi, dépensé pour le transport ou la carte de téléphone qui permettra de joindre les proches restés au pays. Aujourd'hui, Michel, comme la plupart des autres bénévoles investis, voudrait impliquer d'autres familles, trouver d'autres relais pour accueillir les migrants dans les vallées voisines. Car si la situation perdure, la bienveillance des Briançonnais pourrait bientôt ne plus suffire. À Briançon, la montagne solidaire des migrants, un grand reportage d'Alice Posicki, réalisation Guillaume Munier. Mon cœur est là, ne doute pas de faire.